moustique, moustique. Moustique, moustique. Moustique, moustique.
C'est Groustic sur Radio Campus Bordeaux. On est ensemble pour une heure. On va parler de jeux vidéo puisque c'est une émission consacrée aux jeux vidéo. Ça tombe bien. Et en face de moi aujourd'hui, j'ai Mélissa. Salut Mélissa.
Salut à tous.
J'ai Joris.
Salut.
Salut Dylan.
Bonsoir.
Et Léo.
Salut.
Et Lucien.
Bonsoir.
Et Théo.
Salut, j'étais pas revenu depuis longtemps, j'ai entendu le nouveau générique,
c'est
de mieux en mieux, dis donc.
Alors, tu nous écoutes plus ?
Si, j'écoute, c'est juste que j'appelle le générique en fait. Je suis désolé.
Hein,
tu prends l'émission en cours, c'est
je
ça
Je prends l'émission en cours.
Netflixise.
Alors, ce soir, dans Groustic, on va parler d'une thématique qu'on n'a jamais abordée. C'est la place de l'histoire avec un grand H dans le jeu vidéo, ou comment elle est représentée, cette histoire de l'humanité, hein, dans nos jeux préférés, dans les jeux du moment, ou les jeux même pas du moment du tout. Mais on va essayer de se poser la question de sa place, en tout cas, et de comment elle est représentée sur un écran dans un jeu vidéo. Et bien sûr, il y aura toutes les habituelles chroniques de Groustic, on aura de l'OVNI avec Théo, c'est ça OVNI hein.
Oui, tout à fait.
Oui. On aura du test avec Léo. Hein.
Tout à fait.
On aura aussi une chronique musicale avec Joris.
Oui.
Et on aura aussi une chronique rétro avec Mélissa.
Tout à fait.
Voilà, j'ai fait le tour. Personne, aucune objection.
On est bon. On est good.
Allez, on va se lancer rapidement dans la thématique de Groustic.
Groustic. La thématique.
Alors la thématique, je ne vais pas la répéter, si. Allez, c'est l'histoire dans le jeu vidéo. Alors c'est une thématique qui nous a été soufflée par Léo, qui tenait énormément. Ça fait plusieurs semaines qu'il nous emmerde avec ça.
Pas du tout, je l'ai donné hier.
Non, mais le background, tu sais, on peut dire ce qu'on veut.
Oui, c'est vrai. Voilà, mais en fait, ça fait des semaines que je vous vois galérer à trouver des thèmes. Alors, je me suis dit, allez, on tranche là, ils vont rien dire.
Alors, tu t'es dit, oui, pourquoi pas parler de l'histoire dans
mais
le
jeu. Mais de l'histoire, en fait, ça m'est venu. C'était les jeux vidéo qui te donnent envie d'intéresser à l'histoire quand t'es jeune, notamment. Moi, ça m'était venu avec Dynasty Warriors 3. Qui n'est pas du tout un jeu vraiment historique très précis. Mais il y avait une encyclopédie dedans. Alors, juste pour retracer l'histoire de Dynasty Warriors, ça prend part pendant la guerre des Trois Royaumes en Chine. Donc c'est assez cartoonesque, c'est du nanardesque, c'est n'importe quoi de ce qui se passe à l'écran. Mais il y a une encyclopédie, et quand j'étais au collège, je jouais à ça, et je m'étais mis à m'intéresser à la guerre des Trois Royaumes. Et je m'étais rendu compte que je m'y connaissais vachement, alors que c'est un pan d'histoire qu'on n'étudie pas du tout à l'école, ouais. Et qui est peu représenté dans la culture populaire. Et en fait, maintenant, l'histoire, elle est très présente dans les jeux vidéo, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Et l'aspect historique, comment il est fait, s'il est exact ou s'il est réécrit, c'est une vraie thématique maintenant.
Les Trois Royaumes ont été abordés énormément dans le cinéma chinois, notamment chez John Woo, qui a fait un film qui s'appelle Les Trois Royaumes. Donc voilà, donc si tu l'as pas vu, Léo, je t'invite
petit
à
conseil.
Le faire. Je
petit
t'invite
conseil.
À le faire, ouais. Et c'est vrai que le jeu vidéo ne prenait pas part à cette illustration historique dans un premier temps. Et de plus en plus, on y arrive aussi, parce que le jeu vidéo devient peut-être un petit peu plus sérieux, plus fréquentable. C'est peut-être pour ça qu'on a l'histoire qui arrive dans le jeu vidéo.
En tout cas, il y a une plus grande place dans l'industrie, quoi. Et vu qu'il y a plus de gens qui jouent maintenant au jeu vidéo, peut-être qu'il y a des nouveaux joueurs qui s'y retrouvent plus dans les jeux historiques. Je ne sais pas s'il y en a autour de la table. Moi, je pense à Civilization, mais vous avez d'autres exemples, peut-être ?
Des exemples, il y en a plein, surtout dans différents types de jeux, parce que là tu vois, tu parles de jeux comme qui concernaient les guerres des Trois Royaumes, etc. Civilization en est un autre. T'as aussi dans les jeux d'aventure, des triple A et compagnie, les Assassin's Creed, les choses comme ça,
ouais.
Où il y a toujours en fait un contexte où il y a un pied en fait dans l'histoire. Et en fait, je pense que pour revenir sur ce que tu disais en dernier, ce que disait Nicolas Loubert, il y a aussi une pour peut-être une plus grande, comme une plus grande visibilité sur les sujets qui sont abordés. Parce que je suis sûr que si tu avais eu un Assassin's Creed sur Atari, on n'aurait pas entendu beaucoup parler, tu vois, dans la presse, comme on a pu l'avoir il y a quelques années, de gens qui seraient venus dire oh là là, mais attention, ils parlent de soi-disant, qu'ils parlent de la Révolution française, alors que voilà, il y a quand même aussi une question de visibilité qui fait que les gens vont peut-être un petit peu pointer du doigt ce qui se fait. Et il y a aussi, il faut voir, il faut différencier aussi histoire et histoire dans, en termes de contexte dans les jeux, parce que tu vois, je pense que le travail de contextualisation et l'importance de la contextualisation avec ce qui se passe réellement dans l'histoire entre le jeu dont tu parlais jusqu'à présent, juste avant, où il y a pas mal, c'est assez délire, etc., et un jeu beaucoup plus grand public comme Assassin's Creed ou des trucs comme ça qui va concerner plus de monde, ça, ou alors même pas pour ce qui concerne, mais pour ce qui est traité dans l'histoire, dans l'aventure elle-même ou comme ça du jeu vidéo, c'est pas déjà les mêmes travaux au préalable, il me semble.
Théo et Joris après.
Ok, si je peux rebondir, justement, on évoquait oui. Civilisation à l'instant et on évoquait aussi peut-être le fait que les joueurs soient un peu plus enclins à jouer à des jeux historiques. Je pense que le jeu vidéo n'a pas attendu justement les joueurs pour s'y lancer, puisque évidemment. Le premier Civilisation c'est 1991, donc c'était il y a 30 ans.
C'était dégueulasse.
Et c'était sur MS-DOS et sur Super Nintendo et sur Amiga également, donc je pense que ça devait piquer un peu les yeux à l'époque, mais pas forcément.
La Civilisation, si.
Mais par contre, pour revenir, on avait aussi évoqué Assassin's Creed, tout ça, machin, et tu t'évoquais en introduction le fait que toi, t'as pu, du coup, énormément apprendre grâce au codex, grâce aux souvent espèces de wiki, du coup, qui t'a intégré dans les jeux. J'ai un truc un peu similaire avec Assassin's Creed 2 et Brotherhood. C'était assez marrant parce que j'étais en troisième, on évoquait du coup le Quattrocento italien. Donc c'était parfait, hein. Je crois que j'ai fait la moitié de mes exposés sur le codex Assassin's Creed. Mais par contre, il y a une problématique qui n'a jamais été résolue par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'à aucun moment, tu n'as eu de jeux vidéo qui intégrait le gameplay comme étant par exemple du coup un motif historique. Et alors... ça a été plus ou moins résolu par Patrice Desilets. Ça tombe bien parce que du coup on rebondit du coup de truc en truc, parce
tu
que
dis
Patrice
que c'est juste un background de l'aspect historique.
Voilà, l'aspect historique a toujours servi de background et jamais d'outil de gameplay. Et Patrice Desilets, du coup, lui, il avait travaillé sur Rainbow Six, il avait travaillé sur la saga Assassin's Creed, sur les Prince of Persia, et il est revenu avec son studio Panache Digital en 2019 avec Ancestors, The Humankind Odyssey. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Tu avais les jeux de guerre aussi quand même.
Il y avait les jeux
et
de guerre.
Là où tu participais quand même quand tu avais des reconstitutions. Je me souviens de ces jeux-là, des Medal of Honor et compagnie sur Play 2. Tu avais quand même des reconstitutions où là, le contexte historique était au centre du gameplay.
Oui, effectivement.
Tu étais dans les tranchées et ce qui se passait devant toi était directement lié à tel ou tel fait historique.
C'est vrai. Mais quand on sort justement de l'aspect action, en fait, c'est difficile justement de retranscrire un outil de gameplay dans un cadre historique, et Ancestors arrivait à le faire de manière il l'a fait de manière maladroite, mais c'est un jeu du coup qui prend part du coup pendant le Néo-Gès, donc plein préhistoire en Afrique, et c'est du coup un jeu qui se déroule sur une période entre 10 et 2 millions d'années avant Jésus-Christ, enfin avant notre ère plutôt, et ce qui se passe en fait c'est que on incarne des ancêtres de l'Homo sapiens actuel qui vont évoluer au fur et à mesure du gameplay, et en fait l'idée étant de choper justement des, un peu comme dans sport en fait, des améliorations génétiques qui nous permettent après de pouvoir nous dresser sur nos deux pieds, de pouvoir grimper aux arbres, de pouvoir... c'est assez intéressant parce que du coup
toi, c'est l'Homo erectus que t'aimes bien.
Non mais c'est un exemple justement de jeu qui prend vraiment le contexte historique et l'aspect historique en tant qu'outil de gameplay, et ça c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui effectivement, à part dans les jeux de guerre ou les RTS, à la limite, n'est pas trop exploité.
Joris.
Je rejoins Théo dans ce qu'il disait. Que,
mais t'as le droit.
J'ai l'impression que pendant un certain temps, le jeu vidéo historique, en tout cas la base historique, c'était plus un cadre qu'une réelle réflexion par rapport au jeu. Parce que ça faisait bien, c'était un peu le jeu vidéo à la base, c'est cap et épée, Moyen-Âge, ça rend bien, c'est sympa. Et d'ailleurs, c'était une critique, je trouve, qu'il y avait souvent chez les Assassin's Creed, où on disait, c'est sympa, le cadre est cool, mais niveau réalisme historique, c'est bidon, c'est nul. Et j'ai l'impression que les développeurs, ils ont un peu pris en compte ça. Et le fait qu'en fait, chez les joueurs, il y avait un réel intérêt pour l'histoire. On a vu petit à petit les Assassin's Creed de plus en plus réalistes par rapport à l'histoire. Je sais que c'est depuis Assassin's Creed Origins, ils ont carrément mis des visites guidées. Donc de manière beaucoup plus historique, avec des archéologues, des historiens qui rajoutaient des explications, etc. Et on l'a vu récemment, il y a Kingdom Come Deliverance. Alors je me demande si c'est peut-être une attente des joueurs où l'évolution technique a permis des jeux immersifs, où là on fait vraiment des jeux qui sont... Il y a une volonté de réalisme et une fidélité historique, dont Kingdom Come Deliverance, c'est au royaume de Bohème au 15e siècle, on fait vraiment attention à ce que le jeu soit le plus réaliste possible, qu'on soit vraiment plongé à cette époque et dans cet endroit-là. Il y a Plague Tale aussi, avec, je crois que Léo, tu voulais en parler mais après. Oui. Et aussi, pour rebondir par rapport à Civilization, moi je sais qu'il y a une série que j'aimais beaucoup, c'est les Total War, où c'est des jeux de stratégie et de guerre, on peut recréer des batailles en temps réel, c'est complètement épique. Le premier épisode est sorti en 2000, c'était Shogun, Total War Shogun, et il y avait déjà cette volonté de mettre le jeu dans un cadre historique et réaliste, et vraiment de refaire vivre le joueur une épopée qui s'est déroulée, que ce soit le Japon féodal ou le Moyen-Âge, les guerres napoléoniennes, etc.
Mélissa.
Histoire, jeux vidéo et militants de gauche ne font pas bon ménage, car j'ai fait des recherches sur la thématique. Et alors, il faut savoir qu'en 2014... En 2014, le Mélenchon's Gate, c'était Assassin's Creed Unity, donc le nouvel épisode en 2014 de la saga qui est sorti. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon s'est insurgé contre ce jeu en disant que des jeux comme Assassin's Creed portrayaient la Révolution française de manière trop sanguinaire, qu'en fait ça nous donnait une fausse représentation de l'histoire.
Ouais, il avait un petit problème avec Robespierre.
Il y avait également un problème avec Robespierre, et plus généralement c'est toute une frange en fait de la gauche qui s'est insurgée contre ces représentations en disant qu'en fait portrayer la guerre ou les révolutions ou les robespierristes de ce point de vue-là, en fait, c'est tellement sanguinaire que ça empêcherait les gens... En fait, on ne peut qu'être contre la révolution si on voit la révolution qu'à travers ce prisme-là. Donc déjà, il y a ça. Mais aussi, je voulais aller plus loin et dire que c'est un jeu vidéo, donc c'est forcément une adaptation. Et en fait, le jeu vidéo a le droit de prendre des libertés d'adaptation face à l'histoire. Le jeu n'est pas là pour retracer avec exactitude les événements historiques.
Comme les films d'ailleurs,
hein, j'allais y venir. Et donc pour moi, ça me semble pas aberrant que le jeu ait peut-être un côté plus créatif et grandiloquent que l'histoire elle-même, parce qu'on est là pour jouer et se divertir. Donc en fait, reprocher au jeu d'être trop divertissant parce qu'il prend des libertés avec l'histoire alors que c'est un jeu divertissant, enfin, ça n'a pas trop de sens pour moi.
Je pense qu'on est, alors je veux pas je le suppose uniquement, mais on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas défini au début de cette thématique, les jeux vidéo sont des œuvres de fiction. Et donc du coup, à partir du moment où il y a un contexte historique à l'intérieur, quel que soit le contexte, c'est quand même une œuvre de fiction. Donc,
c'est la libre interprétation.
Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'avait oublié, c'est là que tu vois que les politiques, c'est sympa, hein, mais quand ils font des petites interventions comme ça, le problème, c'est qu'ils montrent vite à tout le monde qu'ils n'ont absolument pas ni joué au jeu, ni qu'ils ne se sont pas renseignés un tout petit peu sur ce qui se fait. En l'occurrence, pour l'exemple d'Assassin's Creed, on rappelle que depuis le premier Assassin's Creed, il est clairement indiqué, plus que dans d'autres jeux vidéo, que ce sont des œuvres de fiction et qu'il y a des éléments historiques qui sont évoqués dedans et qu'il ne faut pas les tenir comme c'est vraiment le premier écran de quand tu charges le jeu. Exactement. Depuis Assassin's Creed numéro 1. C'est la première chose.
C'est l'épilepsie, le premier écran.
Et on passe. Ouais, c'est le deuxième du coup. Mais et on passe à côté du fait aussi. Et c'est dommage que ce soit tombé, mais ça tombe toujours sur le mauvais jeu de façon. Hein, ce genre de problématique. On passe aussi sur le fait qu'Ubisoft a beaucoup travaillé. On peut dire ce qu'on veut d'Ubisoft, mais quand même dès le départ travailler avec des universités, des trucs comme ça. Donc ouais. Mollo, quoi.
Alors, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Alors, j'ai Léo, après Joris, après Théo et Mélissa. Non, parce que j'essaie de garder l'ordre.
Mais moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Lucien. C'est très rapide.
Vas-y, Mélissa.
Donc, en fait, je voulais dire que, pour finir sur le gauche-gate face aux jeux vidéo, alors, les politiques, comme tu le disais, ne connaissent souvent rien au jeu, où ils vont parler d'un événement ou d'une sortie pour créer une sorte de buzz médiatique. Mais il y a des historiens qui s'étaient positionnés sur la question et qui se positionnent encore et qui disent qu'en fait, le jeu vidéo, ça peut être un formidable outil, on l'a mentionné d'ailleurs, pour inciter les gens à s'intéresser à l'histoire, pour se dire que j'ai joué à ce jeu qui se déroulait dans cette époque-là, c'était super beau, ça m'a intéressé, il y avait des mythes ou des histoires ou des contes qui m'ont intéressé.
C'est totalement
et du
inversé.
Coup ensuite d'aller se plonger dans la vraie histoire. Donc ça peut être tout simplement un outil pour aller vers plus de connaissances et pas juste un outil pour décrire une réalité historique.
Arte a carrément diffusé du non, je te donne la parole tout de suite Théo, mais Arte, pour rebondir sur ça, Arte a carrément diffusé des extraits d'Assassin's Creed Odyssey dans leur dernier documentaire sur la Grèce antique, où ils mettaient littéralement, avec des historiens qui intervenaient en direct, des extraits de gameplay où il se passe rien, mais tu vois, t'as la caméra troisième personne qui navigue dans le truc et les historiens en parlent.
Théo, tu voulais réagir.
Et oui, je suis désolé du coup de prendre la parole à tout le monde, mais c'est juste que on parle justement en fait du rapport entre les universités et le jeu vidéo. Il faut pas oublier en fait qu'on est à l'université Bordeaux-Montagne. Enfin, elle nous accueille finalement, ouais. Cette fameuse université pour les locaux de Radio Campus. Et tous les ans sont organisés les Mountain Games, qui sont un festival qui traite de jeux vidéo et d'histoire, notamment organisé par monsieur Patin, qui est enseignant chercheur
Patin, ouais.
Nicolas Patin, merci, et qui justement en fait ont traité de la plupart des titres dont on a pu déjà évoquer le nom là dans cette émission, les Assassin's Creed qui ont été évoqués également, Plague Tale, Innocence, qui il me semble avait eu toute une analyse en plus de ça en fait, comme le studio
c'est Asobo,
merci beaucoup, qui est bordelais, avait pu aussi intervenir pour expliquer aussi comment ils ont travaillé sur la recherche historique, sur l'analyse, puisqu'en il me semble qu'il se passe du coup du côté de Carcassonne, donc on est bien dans le sud-ouest.
C'est en Guyenne, ouais, au 14e siècle.
Et du coup, en fait, on a quand même vraiment un rapport entre universitaires et jeux vidéo qui existe.
Il y a des chaires et tout. Mais...
C'est ça, et qui sert de support pédagogique, effectivement.
On salue Rémi, d'ailleurs, hein, qui était très engagé, qui était anciennement dans Grostic, et qui était très engagé dans le Mountain In-Game. Léo.
Ouais, en fait, tout ce dont on parle, ça soulève d'autres questions, notamment ce que t'as dit Mélissa et ce que t'as rajouté Théo, en fait, c'est que du moment où on attaque un contexte historique, ça va pas plaire à tout le monde par la représentation. Alors il y a évidemment, comme tu l'as dit Théo, c'est ce qu'ont fait les développeurs d'Asobo et même d'Ubisoft, hein, ils travaillent avec des historiens, il y a un travail de fond, de recherche, on va passer en revue des sources pour avoir un cadre exact. Mais ça ne veut pas dire qu'ensuite, c'est une représentation exacte des faits historiques, en fait. C'était le game designer d'Asobo pour Plague Tale, notamment, qui le disait. Eux, ils préfèrent dresser un portrait de l'époque et évoquer les événements plutôt que les retranscrire fidèlement. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier quand on est face à un jeu vidéo. Alors forcément, quand on est dans une œuvre de médiéval fantastique, la question ne se pose pas. C'est un univers qui est créé exprès. Mais quand on est dans un jeu historique, il peut y avoir des divergences, notamment sur la représentation. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Ça n'a pas les mêmes besoins qu'un film ou autre chose, où là, on peut vraiment se retranscrire. Dans les jeux, il y a le gameplay, il y a des mécaniques, il y a plein de ressorts de narration qui rentrent en compte. Donc même quand ils travaillent avec des historiens, en fait, les historiens doivent garder en tête que c'est pour un jeu vidéo. Donc pour Plague Tale, toujours, en fait, ils sont surtout attardés sur des choses qui pouvaient s'adapter au gameplay. Je pense à la fronde de l'héroïne, j'ai oublié son prénom, plutôt que sur des détails, sur par exemple à quoi ressemblait vraiment une échoppe au Moyen-Âge. Donc c'est plein de choses comme ça qu'il ne faut pas oublier. Moi, je pense que le jeu vidéo, c'est pas un rôle de documentaire. Il est plutôt là pour réécrire l'histoire, pour servir une œuvre de fiction, plutôt que vraiment être une œuvre support historique, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord, Joris ?
Oui, en fait, je voulais rebondir à beaucoup de trucs qui ont été dits.
Allez,
déjà, je reviens à Mélissa sur Mélenchon. Il s'est réconcilié avec le jeu vidéo parce qu'il y a eu un jeu vidéo à son effigie
c'est
en 2017
vrai,
pour
vrai.
La campagne.
Et j'étais sur le cul quand
c'était
j'ai découvert ça.
C'était une sorte
ça.
De Two Dragons revisité où il abattait le capital et défonçait des économies, enfin des banquiers. C'était génial. Enfin bref, c'est pas de l'histoire, mais en tout cas, il y a une réconciliation.
Parce qu'il s'est entouré d'une team un peu plus jeune. Et
oui, ouais.
Il
voilà.
a dû être briefé. Il c'est s'est ça. Rendu compte que ça pouvait être un comme on disait.
En tout cas, c'est un des seuls candidats à avoir parlé des jeux vidéo
oui.
pendant la campagne.
C'est vrai, c'est vrai.
Il a appris de ses erreurs et il a compris que le jeu vidéo pouvait être un formidable outil à la fois historique et politique.
Exactement.
Pour faire le lien entre les
c'est
deux.
Vrai.
Joris.
Et je rebondis sur l'autre truc, sur les polémiques, etc. Je sais qu'il y en avait une récemment, il y a quelques années, sur Battlefield, quand il y avait eu un reboot et ils reprenaient...
C'était Battlefield 5.
Exactement, ils reprenaient le cadre de la Première Guerre mondiale.
Non, c'était le 1 du coup, Battlefield 1.
Oui, c'était le 1 du coup. Et,
soyons précis.
Et il y avait eu un choix, on ne sait pas pourquoi, en fait, le cadre Première Guerre mondiale, et il n'y a pas les Français. Et ça avait fait un peu polémique en disant, quand même, pourquoi on n'y est pas. Alors, ils se sont un peu... ils ont un peu...
Pataugé dans la...
Ils ont essayé de se faire, de se faire pardonner. Ils ont rajouté les Français et les Canadiens, je crois, dans un DLC. Mais ça avait fait un peu polémique.
Il y avait des femmes aussi. il y avait des bataillons de femmes. Alors ça, ça a beaucoup fait râler les gens pas, un peu réac. Mais...
celui-là, c'était dans le 5, du coup.
Ah, c'était le... oh là là, mais on perd dans les Battlefield.
En tout cas, heureusement que t'es là.
Heureusement que Théo est là, ouais.
T'as joué à tous les Battlefield.
Il y a eu ça. Et alors, dernière anecdote, c'est... je voulais vous conseiller une chaîne YouTube, ça s'appelle Histoire en jeu. Et en fait, c'est un professeur, parce qu'on parlait un peu des historiens, des professeurs qui font le lien des fois avec le jeu vidéo. Ben là, c'est tout à fait le cas sur YouTube, où c'est une petite chaîne avec un historien et un professeur qui revient sur des petites anecdotes dans les jeux, qui recontextualise des petites phases de jeu, des petits moments, et qui explique en quoi c'est historique, pourquoi c'est fidèle, pourquoi c'est moins fidèle, à quoi ça fait référence. Et c'est vraiment super bien fait, c'est hyper intéressant, ça s'appelle Histoire en jeu. Si vous voulez faire un tour, vous pouvez apprendre tout en vous amusant.
Est-ce que quelqu'un veut réagir encore sur la thématique ? Est-ce que... Oui, Mélissa.
Est-ce qu'on a le droit de parler de l'histoire des jeux vidéo ?
Bien sûr.
Oui. Bah parce que vu que Joris conseille une chaîne YouTube, moi aussi j'ai une chaîne YouTube à conseiller, ça s'appelle Sakaru, et c'est un YouTuber qui reprend l'histoire des jeux Pokémon, parce qu'on a parlé du contexte historique dans les jeux. Non mais attendez, hein, c'est cohérent, okay, attendez.
Okay. On t'attend.
Donc on parlait de l'histoire qui peut servir de support dans le cadre des jeux vidéo, mais il y a aussi un aspect intéressant, je trouve, c'est de s'intéresser à l'histoire de la création des jeux vidéo ou à l'évolution historique d'une franchise ou des jeux. Et je trouve qu'en fait, en s'intéressant à la conception et à l'histoire des jeux, des fois, on peut avoir un regard nouveau sur à quel point un jeu a été important dans l'histoire, tant dans par exemple des nouveautés de gameplay ou même des nouvelles sorties sur console, etc. Et donc j'ai découvert, je suis pas très YouTube, je regarde pas trop ce genre de choses, même des chaînes concernant les jeux vidéo, mais il y a ce passionné qui a le pseudo de Sakaru et qui retrace toute l'histoire du jeu Pokémon et qui explique de la première sortie du jeu Pokémon jusqu'aux dernières nouveautés, pourquoi c'est un jeu important et pourquoi il a autant marqué l'histoire. Donc on apprend plein de petites anecdotes, notamment sur, par exemple sur Game Boy Color, à quel point c'était compliqué de mettre en boîte autant de données sur une telle cartouche graphique, et on se rend compte vraiment à quel point c'est un métier très complexe de passionnés et qui est absolument colossal. Moi vraiment ça m'a donné, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à critiquer un jeu en se disant oui ça moi j'aurais pas fait comme ça ou ça pourrait être mieux, etc. Mais on se rend pas compte à quel point il faut d'outils et de compétences pour faire un jeu vidéo. Donc je trouve que c'est important aussi de s'intéresser à l'aspect l'histoire de la création des jeux pour voir comment on fait un jeu vidéo et où on se situe par rapport à ça.
Merci bien.
C'est vous complètement... rigoliez avec mon Pokémon qui sortait de nulle part.
Ouais, c'est complètement hors sujet. Hein,
on voit toujours pas le lien. Mais
c'était fascinant.
Et peut-être plus tard, il y aura des jeux réalistes où les gens jouent aux jeux vidéo et on voit l'impact qu'a eu par exemple la franchise Pokémon sur la culture populaire. Je pense à Shenmue, tiens, où on peut jouer à des jeux d'arcade et tout ça. Et là, on se rend compte que le jeu vidéo fait partie de la vie quotidienne, même d'un petit village japonais.
L'histoire des jeux vidéo fait aussi partie de l'histoire qui est le contexte de jeu.
Ouais, c'est très méta. Hein.
L'histoire des jeux vidéo qui est très récente. Hein. Les jeux vidéo, c'est
en plus,
très récent.
Ouais, mais même.
D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, avoir des notions d'histoire et de jeux vidéo, il y a une très très belle exposition actuellement à Cap Science qui s'appelle Retro Race 2022 et qui retrace toute l'évolution des jeux de course. Donc depuis les années 70, donc la fin des années 70, avec les premiers jeux sur console Atari, ColecoVision, etc., jusqu'aux années, ça va jusqu'au début des années 2000, Léo, c'est ça hein?
Oui,
puisqu'on a le premier Grand Turismo, et puis Micro Machines sur PS2, donc on va dire jusqu'en 2005-2006, voilà, et donc c'est super bien monté comme exposition où on apprend énormément de choses sur l'histoire du jeu vidéo, pour te rejoindre, Mélissa.
Et on peut écouter le podcast sur le SoundCloud de Radio Campus Bordeaux.
On a fait un petit documentaire audio sur cette exposition.
La chronique musicale.
Et pas besoin d'en dire plus pour qu'un élan de nostalgie s'empare de vous dès les premières notes de cette OST. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la musique de cinématique d'introduction de Beyond Good and Evil. Aujourd'hui, je vous propose justement une chronique musicale sur ce jeu culte sorti en 2003, signé notre Michel Ancel National et pas d'Orcel, une musique loin d'être anodine, car elle impulse au fond du joueur un sentiment enchanteur, lui faisant comprendre que l'aventure qu'il va vivre ne le laissera pas indifférent. On est en effet très vite happé par cet univers incroyablement riche et contemplatif, grâce à cette musique écrite et composée par Christophe Héral. On écoute un extrait. Alors d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est révélatrice de ce lien intime entre la musique et l'univers de BGE. Lors de son développement, la musique a en effet influé sur le jeu, en l'occurrence sur les graphismes. Les tonalités mauresques de l'architecture de la ville principale sont apparues après que Christophe Héral a ajouté des violons arabisants dans ses musiques d'ambiance. Et ces musiques d'ambiance sont toujours très inspirées, avec diverses influences, arabes, indiennes ou encore bulgares, dans le but d'apporter toujours une touche mystérieuse dans la musique, mais pas que. Les voix y sont pour beaucoup. Certaines langues, notamment celles des Doms, les grands méchants du jeu, sont imaginaires ou un mélange de plusieurs existantes. On sent également dans la musique la volonté de mettre en valeur un monde merveilleux et chatoyant. Si l'on ne peut pas sentir le vent, on peut entendre sa mélodie et profiter de chaque paysage nous renvoyant cette image et cette atmosphère d'un univers dont les habitants vivent en parfaite harmonie avec sa faune et sa flore. Je vous mettrai presque la larme à l'œil, comme dans ma chronique musicale sur Shadow of the Colossus, mais depuis que les masques sont tombés, que vous savez, grâce à cette balance de Mélissa, je parle bien évidemment de ton signe astrologique, que je suis un gros psychopathe devenant fou à la moindre difficulté dans un jeu, et ben on va maintenant parler des courses dans Beyond Good and Evil. Mini-jeu très prenant dans BGE justement, les nombreuses compétitions rythmeront votre progression et s'avéreront de plus en plus difficiles. Quand vous recommencez une course pour la 10e fois, vous vous mettrez sans vous rendre compte à chantonner cette musique avec un sombrero sur la tête entre deux. Et il fallait que je me prenne ce putain de mur. Mais d'où il me double cet enculé, bordel. Bref, vous connaissez la chanson. Un poquito de benzina para tu lindo coche, Juanito, el mecano, esto va a pegar el turbo para que quieres el mejor. El mejor. Ole, 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 con tu rueda del sol. Ole, 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 con tu rueda del sol. Ole, 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 con tu rueda del sol. Ole, 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 con tu rueda del sol. Un poquito de benzina para tu lindo coche, Juanito, el mecano, esto va a pegar el turbo. Olé, 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 vous avez compris l'idée. Après, c'est une semaine en boucle dans la tête, c'est terrible. Enfin bref, je ne vous en dirai pas plus sur l'intrigue, les personnages, le gameplay. Mélissa le fera bien mieux que moi juste dans son test juste après. Mais je voulais vous laisser sur la musique phare du jeu, celle que vous entendez à chaque lancement, signal vous indiquant que le voyage commence. Si Beyond Good and Evil a marqué autant les mémoires, je pense que la musique y a contribué grandement. Chaque écoute nous fait le même effet que celle de rouvrir les pages d'un vieux conte que l'on nous lisait enfant, entre joie et profonde mélancolie.
le test.
Et le test, c'est avec Mélissa ce soir.
Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'un jeu tout simplement exceptionnel et qui me correspond en tout point, tant sur la forme que sur le fond. Un jeu qui, au début, n'avait pas plus attiré mon attention que ça. Et quelle erreur, car ce jeu, c'est le jeu. Ce jeu, c'est Beyond Good and Evil, BGE pour les intimes. Alors, BGE, qu'est-ce que c'est ? BGE, c'est un jeu d'action-aventure édité et développé par Ubisoft, sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube. Et grâce aux merveilleuses évolutions technologiques, j'ai pu jouer, accompagné de mon acolyte Joris, à une version remasterisée HD sur PS3. Alors déjà, je souhaite te remercier, Joris, de m'avoir fait découvrir ce jeu et de m'avoir permis de jouer à ce jeu sur ta PS3. Sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Sans toi, ni cette chronique n'existerait, ni nos sessions de jeu tardives jusqu'à 3h du matin. Avant d'aller plus loin dans cette chronique test slash rétro un peu hybride, hein, vu que c'est un jeu qui date de 2003, eh bien,
c'est rétro.
Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de BGE. Donc dans BGE, nous sommes en 2435, sans spoiler, ne t'inquiète pas Lucien, sur la planète Illys, dans le système 4.
T'en as trop dit pour Lucien.
Les extraterrestres DOMS attaquent la planète et enlèvent des centaines de personnes. Les sections Alpha, sous les ordres du général Keshk, protègent la population, je dis protégée avec des gros guillemets. Les pouvoirs des DOMS et de leur général ne cessent d'augmenter au détriment des autorités civiles, tant et si bien qu'Illys prend de jour en jour des allures de dictature militaire sous couvert de protéger, de respecter la population.
Il en dit quoi Mélenchon de tout ça ?
Ben, je pense qu'il serait très critique, hein, écoute. Et justement, en parlant de Mélenchon, un mystérieux groupe de résistants flaire l'entourloupe. Ce groupe, c'est le réseau Iris. Ensemble, ils mettent en place un plan et une stratégie afin de combattre la propagande du nouveau pouvoir. Dans BGE, la question c'est « Et si les alphas et les DOMS n'étaient pas là pour protéger la population ?» Dans BGE, vous incarnez Jade, reporter indépendante qui se retrouve malgré elle au milieu de ce combat et elle devra prendre position. Alors déjà, petite pause hein, après ce résumé scénaristique. Dans BGE, vous combattez la propagande officielle et corroborée par les médias. Le discours officiel veut vous faire croire qu'il existe une menace bien réelle et que sans la protection du groupe Alpha, le groupe Alpha, hein, c'est l'équivalent du pouvoir en place, une sorte de gouvernement, et bien sans les mesures restrictives et la protection des Alpha, vous ne pourrez pas vous en sortir. Si ce jeu vous rappelle une sorte de réalité, sachez que ce n'est pas un hasard, et si cela ne vous dit rien du tout, Cela veut dire que vous êtes matrixé, hein, je vous l'annonce. Voilà, donc sortez de la matrice, voyons. Qui fait encore confiance aujourd'hui au gouvernement ? Déjà en 2003, c'était Krenios. Alors, je vous rappelle la guerre en Irak. Alors aujourd'hui, quelle erreur, hein.
Ça a vrillé d'un coup, là.
Bon, enfin bref. Pour en revenir au monde fictif de BGE, Illys est donc en train de se transformer progressivement en dictature militaire. Et c'est là que Jade va sauver le monde. Jade, c'est la femme parfaite. Elle est jolie, sportive, intelligente, empathique et elle est surtout très cool. C'est la femme de la situation.
Alors il faut qu'une femme soit jolie pour être parfaite, c'est ça ?
Mais non, elle est jolie, c'est descriptif. Ah, enfin, moi, je la trouve jolie. Limite,
hein. Elle s'habille bien. Elle est très stylée.
Et en plus, elle n'est même pas aussi sexualisée que Lara Croft. Jade n'a pas besoin de ça. Elle est juste trop cool. Pas besoin de gros nichons ou de gros plans sur ses fesses. Ah non, ça c'est la faute des développeurs. Excusez-moi, je me suis égarée. Donc BGE, c'est un jeu d'action-aventure. Et c'est un vrai jeu d'action-aventure. Cela veut dire que vous allez parcourir le monde, vous infiltrer, voyager, vous déplacer et même naviguer à l'aide et à bord d'un vaisseau spatial. Les missions d'infiltration sont nombreuses et occupent une grande place dans le jeu. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Shadow of the Colossus. Et surtout de Joris, qui se faisait balloter par Shadow of the Colossus pour être sympa. Il est vrai que Joris a perdu ses nerfs plus d'une fois. Je ne répéterai pas les vilains mots qui sont sortis de sa bouche, c'est si vulgaire. Mais je tiens à nuancer le portrait de Joris en tant que joueur. Comme je le disais au début de cette chronique, je n'ai pas joué à BGE toute seule, mais en duo. Nous avons eu une partie plutôt équilibrée, mais il est vrai que les parties du jeu où il fallait se faufiler dans des donjons à l'atmosphère stressante et oppressante, heureusement que tu étais là, Joris, car tu as fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, nous extirpant de plusieurs mauvaises situations. Tu as parfois vociféré quelques insultes, mais tu es resté maître de toi-même avec brio et je te dis bravo, félicitations pour cela. Alors pour en revenir à BGE, pourquoi c'est un jeu exceptionnel ? La partie musicale a été analysée par mon cher collègue, donc je ferai l'impasse à ce sujet, mais pour continuer sur la qualité foudroyante de ce jeu, moi ce qui m'a le plus plu et marqué, c'est l'histoire. Pour moi, BGE, c'est l'équivalent de 1984 de George Orwell, et oui, rien que ça. BGE, c'est un avertissement pour les années 2020 et quelques. Manipulation médiatique, complot démasqué, politiques qui veulent du mal à la population, esprit critique et intuition développée nécessaires pour ne pas se faire embrigader dans le complot, BGE est un jeu rétro actuel qui nous prévient du danger le plus prégnant, celui de se faire aspirer son cerveau et son intellect. Le créateur Michel Ancel a réalisé un vrai tour de force avec ce jeu. Vous partez de votre petit îlot dans la région d'Ilis pour vous retrouver dans l'espace. Tout est réaliste, tout est très cher aussi, hein, comme dans une société capitaliste. Et tout ce qui est cher ne dure pas forcément longtemps. Par exemple, le tourisme spatial, là je parle du monde réel, hein. Le tourisme spatial est en train de se développer et c'est très cher. Dans BGE, vous devez récolter de très nombreuses units pour acheter les pièces manquantes pour vous rendre dans l'espace. Plus de 30 000 units dépensés plus tard pour voguer dans l'espace quelques minutes. Tout ça pour ça, hein, j'ai envie de dire. Enfin bref, mais
c'est
vous
pas
allez...
la même époque non plus. Hein.
Comment ?
C'est pas la même époque non plus.
C'est pas le même contexte. C'est pas le même lieu.
Non mais c'est pas le même contexte, mais c'est toujours cher, tu vois. Enfin, ouais. Pour aussi peu de temps, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est le ratio coût et temps. Tu comprends ?
Bien sûr. Ouais.
Voilà. Mais vous allez quand même dans l'espace, et ça c'est quand même plutôt cool, ouais. Et surtout vous allez sauver le monde. Dans BGE, il existe aussi un côté mystique, voire ésotérique. Jade, personnage principal, est en fait dotée d'une force, d'un pouvoir, un peu comme dans Star Wars ou Galactic Football. Elle a quelque chose en elle de fort et lumineux, et elle ne sait pas d'où cela vient. Cette quête de la vérité dans BGE, elle est double. Il y a la vérité pour toutes et tous, celle qui concerne les citoyens et la société, rétablir justice, et il y a cette quête de la vérité individuelle et de ses origines. Lors de ma première session de jeu, pardon, notre session de jeu, Joris, nous avons été happés par ce jeu si bien que nous avons joué pendant presque 6 heures d'affilée jusqu'au milieu de la nuit. Il faut dire que se procurer BGE n'était pas une mince affaire. Après moult recherches pendant des jours pour découvrir qu'en fait, BGE n'existait pas sous format physique, peu importe les easy cash en France, tu t'es rendu, Joris, sur le PlayStation Store en pensant que ça y est, la mission était accomplie, mais quelle erreur, puisque pour créer le compte et pouvoir acheter le jeu, ce fut une belle galère qui t'a pris une grosse partie de ta soirée. Si tu t'es rattrapé sur tes compétences, tes skills vidéoludiques, comme on dit, au niveau du gameplay pour BGE, acheter le jeu fut de très loin la partie la plus compliquée. Mais tu as réussi. Voilà, c'est un petit tips pour vous. Si vous cherchez à vous procurer BGE en format physique sur PS3, sachez que ce n'est pas possible, en fait. On a mis un peu de temps à s'en rendre compte.
C'est très difficile, en tout cas. C'est possible,
voilà.
Mais c'est très difficile.
C'est sans doute possible, mais en tout cas, il est disponible pour 9,99€ sur le PlayStation Store. Et c'est vrai que la PS3, c'est une console qui commence à dater. Donc, en fait, nous, on se rendait très rarement sur le PlayStation Store 3. En fait, il est toujours actif, il est toujours alimenté, il y a toujours des mises à jour, hein, donc ça fonctionne très, très
Théo,
bien.
Théo, et il ferme en 2023.
Bientôt.
Voilà, donc
voilà,
si vous voulez
vous
acheter des trucs...
Voilà, donc vous avez un an pour acheter BGE.
Et pareil pour le Store Vita. Donc, grouillez-vous si jamais vous avez une PS Vita, et que, parce que les formats physiques aussi sur Vita n'existent quasi plus.
Il y a déjà plus de suivi, je crois, sur Vita.
Il est encore actif. Enfin, le suivi va fermer prochainement. Okay. Voilà.
Vite.
Merci Théo. En bref, pour en revenir à BGE, c'est un jeu d'une qualité indéniable. C'est le jeu auquel il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie, tellement la prestation de Beyond Good and Evil est sublime. Même si certaines phases d'infiltration sont un peu ingrates, ce n'est pas ce que vous allez retenir du jeu, car BGE, c'est avant tout une aventure immersive et selon moi, une perle rare. La bande-son vous transporte dans un tout autre monde, les personnages sont attachants et l'aventure en elle-même est ultra immersive, ultra cohérente de bout en bout et vous scotchera derrière votre manette. On regrette juste, lorsqu'on a fini le jeu, que l'aventure s'arrête là. On aimerait rester plus longtemps. On reste un peu sur sa fin, avec une sorte de cliffhanger hein, qui donne envie de voir la suite. Et en parlant de suite, un BGE 2 est en préparation. Cela fait des années qu'on en parle. Souvent, on a l'impression que ce genre de suite annoncées sont des mythes ou des fantasmes. Mais j'ai bon espoir, car j'ai un proche cet été qui cherchait du travail. Et sur une Indeed... Il est tombé sur une annonce de game designer au sein d'Ubisoft Bordeaux pour travailler sur BGE 2. Donc sachez que le projet existe, qu'il est en cours. Et bah moi j'attends la suite, j'attends rien que ça.
Alors, il ne faut pas confondre BGE avec VGE. C'est complètement autre chose. Hein. VGE, Lucien.
Au revoir.
Voilà, très bien.
OVNI. Objet vidéoludique non identifié.
Et c'est avec toi, Théo.
Ouais, je me fais un contre-checked fact. En fait, je viens de vérifier. Les stores, du coup, PlayStation 3 et Vita ne ferment pas. Ils devaient normalement initialement fermer en août 2021. Et finalement, PlayStation, face à la pression des joueurs qui souhaitaient quand même pouvoir bénéficier des achats dématérialisés, ont décidé de garder les stores ouverts pour une durée encore indéterminée. Donc voilà, finalement, cette information était fausse. Pour revenir du coup sur l'OVNI, c'est pas vraiment un OVNI puisque c'est pas non plus un jeu complètement sorti de nulle part, complètement obscur. J'avais envie de parler de Deathloop, justement parce que je suis en train d'y jouer actuellement. Deathloop, c'est ce jeu développé par Arkane Studio, le studio de Lyon d'ailleurs, puisque du coup il s'est maintenant divisé entre le Québec et la France, et qui est édité par ces bons vieux Bethesda qui avaient été rachetés par Xbox. Souvenez-vous d'ailleurs en 2021, ce qui s'était passé, c'est que lors du rachat de Bethesda par Xbox, il était question justement de l'exclusivité PlayStation pour Deathloop. En fait, Deathloop devait normalement être une exclusivité temporaire pour la PlayStation, et finalement il avait été négocié avec l'autre partie, celui de Sony, que cette exclusivité durerait un an, ce qui fait que maintenant tous les joueurs de toutes les consoles confondues peuvent jouer à Deathloop, d'où l'idée qu'il y a une certaine actualité quand même liée à ça, et ça me rassure un petit peu. Pour revenir du coup au jeu, Deathloop, c'est un FPS qui nous place dans la peau de Colt, un capitaine qui se réveille sur une plage humide après une longue soirée bien bourrée, et qui se voit attribuer une mission. Alors on ne sait pas vraiment par qui, par des voix dans sa tête, par des écritures du coup qui du coup viennent lui indiquer que il a 8 cibles à assassiner, l'élite d'une île, mais pas n'importe quelle île, une île qui arrive à inverser le temps et qui fait reboucler la même journée encore et encore. C'est un concept du coup qui ressemble un peu à Histoire sans fin, sauf que là du coup on a un mix entre
un jour sans fin.
L'histoire sans fin, c'est le truc d'Heroic Fantasy, voilà. Rien à voir. Absolument rien à voir. Donc Deathloop du coup c'est un peu comme si Hitman se retrouvait du coup dans un jour sans fin. Et l'idée en fait est de devoir essayer d'éliminer les 8 cibles qu'on nous a attribuées avant la fin de la boucle temporelle. Alors pour ce faire, en fait, c'est un jeu qui va à la fois mêler une sorte d'intrigue, enquête narrative, dans laquelle il va falloir glaner des indices ici et là sur les différentes parties de l'île aux différents moments de la journée pour planifier la meilleure approche possible pour pouvoir assassiner les personnes en question. Parce que si on les assassine, du coup, la boucle prend fin, ce qui est l'objectif du protagoniste, mais on ne sait pas pourquoi. Donc on va à la fois enquêter justement sur les motivations de notre propre personnage et en même temps essayer du coup d'accomplir cette fameuse mission, en sachant qu'on sera contré par Juliana, qui est l'antagoniste du jeu, et avec une particularité assez intéressante, c'est que c'est un jeu qui du coup se joue en crossplay et en multijoueur, avec un gameplay asymétrique, c'est-à-dire que n'importe quel joueur, dans n'importe quelle partie, peut incarner cette fameuse Juliana, cette fameuse contre-assassin, qui va essayer de mettre hors d'état de nuire Colt et l'assassiner, ce qui va du coup leur faire revenir à sa boucle. Donc un joueur peut venir vous emmerder dans votre partie et vous faire perdre toute votre progression si vous ne faites pas attention. Alors j'ai essayé de tester cette feature, je vous avoue, et je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que les serveurs sont déserts? Est-ce que tout le monde se met en jeu solo? Parce qu'en fait c'est une option, hein, on peut décider de la désactiver. Moi en tout cas, je n'ai toujours pas eu le plaisir de pouvoir éliminer d'autres joueurs et leur gâcher leur journée. Donc je n'attends que ça, hein, si jamais vous voulez vous connecter ce soir sur Deathloop.
C'est une annonce.
Pas. Mais pour revenir du coup au fait que ça pourrait être un ovni finalement cette chronique, c'est parce que Deathloop, il est un peu considéré comme le dernier né de ce sous-genre qu'on appelle Immersive Sim. Immersive Sim, c'est vieux comme le monde, on pourrait dire. Nicolas, je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler avec des jeux comme System Shock.
Et le sous-entendu.
Je répondrai pas.
De Looking Glass Mirror. On avait également FIF. Qui du coup proposait également une approche immersive sim, et évidemment la saga Deus Ex avec ses premiers épisodes sortis fin 90 début 2000. L'immersive sim en fait c'est une philosophie de gameplay qui fait en sorte de mettre le joueur face à une énigme, face à une problématique, et à laquelle il va pouvoir répondre de différentes façons. C'est un peu à mi-chemin entre le jeu de rôle et disons l'expérience par l'erreur, puisque on a un mix, par exemple, du coup, si on reprend l'exemple de Deus Ex, entre un FPS, un jeu de rôle qui va du coup permettre différentes approches. Dans laquelle, par exemple, pour le, imaginons, on se retrouve du coup dans une base secrète qu'il va falloir infiltrer, remplie de terroristes. On peut décider de se rendre invisible pour du coup se planquer dans les canalisations pour arriver à l'intérieur sans être repéré. On peut décider de tirer dans le tas avec, avec un bouclier, machin, tout ça. On peut négocier avec les personnages. Et du coup, ça donne une opportunité et une pluralité en fait de situations à laquelle on va pouvoir répondre en fonction de la manière dont on joue notre personnage. Donc dans Deus Ex, c'était plus dans une approche, on va dire, jeu de rôle, mais par exemple Arkane s'était fait connaître également pour son jeu Dishonored, qui avait également une approche des systèmes très orientée autour de l'immersive sim, pour la, la raison en fait qu'il existe du coup une, deux approches du coup dans, dans les jeux d'Arkane, celle du coup d'éliminer ou non les gardes, ce qui va du coup avoir des répercussions sur la fin du jeu, ainsi de suite, ce qui du coup demande aussi des réflexions de si je ne tue pas le garde, si je décide de prendre une autre approche, quelle est la meilleure situation à aborder. Et là du coup les immersive sims en fait ils travaillent autour de systèmes qui répondent en fait dans l'environnement, c'est à dire que par exemple on pourrait faire tomber des caisses pour aller par exemple faire tomber dans les pommes du coup les gardes. On pourrait essayer d'imaginer aussi de se cacher derrière certains environnements et de l'utiliser en fait à notre façon pour pouvoir du coup arriver à nos fins. Et la question en fait qu'on se pose, c'est finalement, Deathloop est-il réellement un immersive sim ou un FPS ? Puisque on pourrait vraiment le qualifier d'héritier, mais dans sa proposition, aussi originale dans sa narration et aussi intéressante dans son gameplay, on est plus proche d'un FPS plutôt, plutôt bourrin sur les bords, avec du coup qui vraiment met la part belle à l'action, plutôt que du coup une réflexion autour des systèmes de jeu et autour de la façon du coup de répondre à différentes approches. Dans Deathloop, on a une arme. Et c'est tout. On a quelques pouvoirs aussi par-ci par-là qui nous permettent par exemple d'éviter certaines situations, mais la plupart du coup des situations, on va y répondre en tirant sur des gens, ce qui est assez chouette, hein, parce que du coup c'est un plaisir assez jouissif, mais ce qui du coup pose une autre question, est-ce que finalement, est-ce qu'il peut s'insérer dans cette fameuse case des immersive sims qui dépérit depuis plusieurs années ? Déjà, BioShock, il y a eu cette réflexion d'essayer de, d'utiliser les systèmes pour pouvoir du coup arriver à nos fins. Donc BioShock du coup avec du coup tous les pouvoirs qui permettaient par exemple d'électrifier l'eau pour pouvoir faire tomber du coup des gens dans les salles, d'utiliser des pouvoirs de télékinésie pour envoyer des objets du décor sur les gens. Et là en fait, on retrouve pas forcément ça. Et la question qu'on pourrait se poser... Est-ce que finalement...
Mais est-ce qu'il n'y a pas que toi qui te pose cette
question ?
Bah
non, c'est pas que moi qui me pose cette question.
C'est pas décollant.
Est-ce que l'immersive sim a-t-il déjà disparu ? Est-ce qu'il s'est déjà dilué en fait dans d'autres genres, dans d'autres jeux ? Puisque, pour terminer du coup sur cet ovni qui est finalement l'immersive sim, cette espèce de licorne qui s'en va au loin, l'un des derniers jeux auxquels j'ai pu également jouer...
C'est beau, l'image est très belle.
et qui du coup reprend effectivement ce travail autour des systèmes de gameplay, et ben c'est Breath of the Wild, puisque du coup il permet de jouer avec l'environnement, de se balader avec une branche pour frapper la foudre, pour avoir du feu dessus, pour pouvoir taper les ennemis avec une branche enflammée. C'est toute une réflexion justement autour... Du terrain de jeu et de pouvoir du coup l'apprivoiser et le travailler autour de différentes façons avec les environnements, avec les ennemis, avec les différents outils que nous donnent les développeurs.
Peut-être que comme toute invention, c'était central au début, puis ça s'est infusé dans les mécaniques, et ce qui fait que maintenant c'est juste un détail de gameplay.
Effectivement, mais du coup, quel pourrait être vraiment l'héritier de ces System Shock, de ces BioShock, de ces Deus Ex qui du coup avait du coup cette proposition un peu originale, et bien malheureusement Deathloop n'est pas vraiment la réponse escomptée.
Aïe, aïe.
Le test.
Et c'est avec toi Léo.
Mais oui, le dernier test de ce gros stick. Et pas des moindres, parce que ces derniers temps, j'ai joué à des gros jeux qui m'ont marqué. Red Dead Redemption 2, tous les Monkey Island, Triangle Strategy sur Switch. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de cartes gratuit sur iOS et Android. Ça s'appelle Cards the Universe
t'as choisi
Everything.
Ça, quoi.
J'ai choisi
joué
ça.
À des gros jeux, bon, voilà. Regarde.
Alors c'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu qui m'occupe et qui m'obsède depuis le mois d'août. J'y joue tous les jours, tout le temps, pour constamment, j'arrive pas à m'arrêter parce qu'il est excellent. Et je vais vous montrer pourquoi, Mélissa.
C'est ça que tu fais dans ton bureau, en fait.
Non, dans mon bureau, je travaille.
Ah oui, mais t'es
dans
souvent,
les toilettes alors.
Tu tapotes, non rien, non, pardon.
Ah non, pas du tout. On n'est pas dans les coulisses de Radio Campus.
On t'écoute, Léo.
Alors, le truc, c'est que j'embrasse évidemment Raphaël de Exploration, la chronique jeux vidéo dans Passage, qui dit que sur mobile, les jeux sur mobile ne sont pas à se moquer, et c'est pas à dévaloriser comme plateforme. Ben, je pense que si. Quand même, il y a quand même 95%
de merde
ouais. sur les jeux mobiles. Pourtant, j'ai beaucoup joué sur mobile, j'ai des centaines d'heures sur le Gachapon Iron Maiden, j'ai joué à plein de free-to-play, de trucs comme ça. Je voulais défendre le jeu mobile, mais il n'y a rien à faire. C'est des tableurs Excel déguisés en jeux vidéo faits pour vous cracher, faut faire cracher de la thune au bout de tant de minutes et de tant de secondes. Tout est calculé. Et alors que j'ai eu, ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes, j'avais eu une grosse envie de jeux de cartes cet été. Je me suis dit, j'aimerais bien un jeu de cartes sur mobile que je peux sortir à tout moment et tout. Et j'écume encore une fois le Play Store. Et il n'y a rien qui sort. C'est comme plonger dans sa fosse sceptique avec juste un masque et un tuba. Oh. Et je me suis dit, il n'y a rien à en tirer de cette plateforme. J'abandonne le jeu mobile. Allez, je reste, je fais mon élitiste à être un PCiste pur et dur. Et là, je tombe sur un petit jeu qui me fait de l'œil. Cards, The Universe and Everything. David Games, c'est un studio anglais. Et ça se sent bien dans le jeu. Alors déjà, il y a une petite phrase qui m'a accroché, c'est que notre jeu ne sera jamais un pay to win. Donc c'est-à-dire, vous n'aurez jamais besoin de payer pour gagner, ce qui est l'inverse de tout jeu de cartes à collectionner. Pensez à Magic, si vous n'achetez pas de nouvelles cartes dans Magic, vous ne pouvez pas continuer à gagner. C'est le principe même économique du jeu. Et surtout, notre jeu n'a pas de méta et n'en aura jamais. Alors la méta, dans les jeux vidéo et surtout dans les jeux de cartes, c'est une composition, ce qui marche en ce moment, c'est-à-dire une combinaison de cartes.
La plus optimale.
Ça peut être aussi des personnages dans des jeux comme Overwatch, il va y avoir des modifications. Mais si par exemple vous jouez à Magic aujourd'hui avec votre jeu que vous aviez quand vous étiez gamin, vous ne pouvez pas tenir 2 minutes. Et donc Cards, The Universe and Everything fait cette promesse. Mais comment et surtout, qu'est-ce que c'est Cards, The Universe and Everything? C'est une sorte de jeu de cartes très basique, ça ressemble un peu à la bataille, avec lequel on se bat avec tout ce qui existe dans l'univers. Les cartes sont répertoriées par collection. Vous avez par exemple les cartes agriculture, où on va utiliser des cartes de peintres célèbres, de mythologie égyptienne ou grecque, ou aussi toutes les créatures d'Halloween. Vous avez les cartes espace, où on va se battre à coups de nébuleuses, de planètes du système solaire. Les océans, où on va se faire des decks avec des requins, des mammifères aquatiques ou des poissons. Il y a tout ce qui est historique avec le folklore chinois, les pirates historiques, les légendes de l'Ouest.
Tu peux envoyer un Van Gogh contre Saturne, par exemple.
C'est le principe du jeu. Tu peux affronter ton Einstein contre... Il n'y a pas Mélenchon, par contre. Mais tu peux faire le comte Dracula contre Einstein. Ça marche. Il y a tout qui y passe. C'est le titre du jeu. C'est Descartes, l'univers et tout le bousin.
Est-ce
c'est
que t'as Descartes ici?
Il y a Descartes, il y a René Descartes, voilà, évidemment.
C'est pas mal. Mais attends, mais du coup, comment ça marche en fait pour faire la bagarre?
Ça marche pour faire la bagarre? J'allais y venir tout de suite, Théo. En gros, on va se faire un deck de 18 cartes et notre main en jeu sera constamment de 5 cartes. La partie se divise en 5 manches et chaque manche est divisée en 3 tours. Le premier joueur qui gagne 3 manches a remporté la partie et en fait, on va mettre des cartes qui ont des points de puissance et un coût. Donc ça, c'est comme dans toutes les cartes qui existent. Hein. On a un certain nombre de points d'énergie par tour qui est de 7, par exemple. Et à la fin des 3 tours d'une manche, on compte le joueur qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points remporte la manche et quand t'as 3 manches, t'as gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça, sachant qu'on peut passer des tours pour accumuler de l'énergie et poser des cartes qui sont plus puissantes. À l'écran, on voit qu'il y a 3 emplacements, donc on peut jouer jusqu'à 3 cartes par tour, mais on peut aussi économiser, ça dépend. Il y a des cartes qui vont avoir des synergies, par exemple si c'est joué entre certaines cartes ou qui est la seule carte jouée, elle va gagner en puissance ou elle va faire des effets en plus. Il y a plein de stratégies. Mais le but, évidemment, c'est de faire monter cette petite jauge au centre pour remporter la manche. Il y a plein de petites subtilités, donc notamment l'énergie par tour qui est très importante. On va pouvoir l'augmenter de manière permanente pour jouer de plus en plus de cartes. Et si on est fourbe, on peut même faire baisser celle de l'adversaire qui, au bout de plusieurs manches, n'arrivera plus à jouer une seule carte. Aux puissances des cartes s'ajoutent les bonus d'arènes, c'est-à-dire que dans ces manches-là, ces manches sont réparties en arènes qui sont liées aux collections. Vous aurez la manche des cartes de science, la manche des cartes d'espace, et les cartes de ces collections ont un bonus de pouvoir. Donc ça, il y a aussi une gestion de pile. On se dit, ok, là dans deux tours, ça va être les cartes histoire, donc je vais les jouer maintenant, comme ça elles vont revenir sur le haut de ma pile quand ce sera le bon moment. Donc stratégie le truc. Stratégie le bousin. Et donc à ça s'ajoutent aussi les textes qu'il y a sur les cartes qui vont déclencher tout plein de pouvoirs, soit à la pioche, soit à la pose, soit quand ça retourne dans le deck. Et on va pouvoir faire des milliers de stratégies, de combinaisons, de combos, de synergies, tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, mon deck, c'est les chevaliers de la table ronde qui vont arriver sur la table pour réduire le coût du Graal qui est dans mon deck. Le Graal, c'est une carte qui coûte mais hyper cher. Et à chaque fois que je vais jouer des chevaliers de la table ronde, c'est pas facile à dire, ça va faire baisser le coût du mana du Graal. Et le Graal, quand il est joué, lui, il augmente tous les pouvoirs de mes parties du corps humain. Parce que oui, le Graal,
il file la vie éternelle, quoi.
Voilà. Et donc, dans le reste de mon deck, c'est plein de parties du corps humain. Et ça fait une super synergie où je suis super balèze et je rétame tous mes opposants. Car oui, j'ai oublié de le dire, j'adore les jeux de cartes, mais je suis giga nul, sa race. Je me fais du mal. Mais dans Card the Universe and Everything, j'arrive à être balèze. Comme quoi les développeurs avaient pas menti quand ils disaient qu'il n'y avait pas de méta et que tout le monde, tous les joueurs pouvaient tirer leur épingle du jeu. Si moi je peux, c'est que c'est vrai que la promesse est tenue. Voilà, donc il y a vraiment plein de combos. Si on met une douche avec des météores, oui, il y a une carte douche dans les inventions, et ben ça fait le combo douche de météorite. Ou ah si ouais, on fait rouge gorge plus le sphinx, ça fait la glorieuse gorge qui fait plein de points. Ouais, si on associe Butch Cassidy
dire autre chose ça,
aussi, mais on va le ninja de Metal Gear, Deep Throat.
Oui, voilà. on pensait à ça. Je voulais pas le dire, mais
suite,
voilà.
On peut associer Butch Cassidy et Billy the Kid. Vous avez l'idée. Au niveau des parties, on peut faire des parties amicales comme ça pour se friter entre amis et sans enjeu. Mais là où tout se joue, c'est évidemment les parties classées où plus vous êtes haut dans le classement, plus vous aurez de récompenses.
Ce qu'on appelle les parties fines, quoi.
Les parties fines, voilà, c'est le morceau de la chair tendre.
Exactement.
Les récompenses, c'est quoi? Comme dans tout jeu mobile, vous aurez des pièces d'or que vous pouvez dépenser dans la boutique du jeu, mais aussi les gemmes, c'est la monnaie premium. Normalement, ça sent pas bon dans les free-to-play. Sauf que là, le jeu, il vous arrose comme pas possible, non seulement de pièces d'or, mais en plus de gemmes tout le temps. C'est-à-dire que vous avez des quêtes journalières et hebdomadaires que vous arriverez forcément à faire sans pousser. Vous serez constamment, vous pourrez tout le temps dépenser soit de la monnaie des pièces d'or, soit de la monnaie premium sans jamais devoir payer. Parce qu'en plus, les développeurs sont sympas. Quand il y a un petit problème technique et tout ça, ils nous récompensent, ils nous envoient un mail en disant « Tenez, voici un petit cadeau ». Dans le store, il y a aussi très souvent des cartes gratuites ou des gemmes ou des récompenses journalières qui nous donnent toutes ces ressources. Voilà. Et donc, ce qui marche avec Cards of the Universe and Everything, c'est que avec les règles des parties classées qui changent toutes les semaines, on est constamment obligé de faire des nouveaux decks. Et c'est là où c'est chouette, c'est qu'en fait, on garde jamais le même deck. On a envie d'expérimenter, de récupérer des nouvelles cartes. En plus, je vous l'ai pas dit et je me dépêche. Qu'est-ce qu'on fait des duplicata? On peut les crafter, on peut les combiner pour avoir des niveaux de rareté supérieurs. Il y a une espèce de panneau d'affichage où on peut demander aux joueurs de nous filer des cartes, enfin d'échanger des cartes. On peut vraiment, comme dans une cour de récré, échanger des cartes contre d'autres pour en récupérer de nouvelles et nous faire le deck que l'on veut. Ajouter à ça des recettes pour créer des super cartes fusion. Et vous avez là un jeu de cartes qui marche complètement bien. Donc franchement, essayez Cards, the Universe and Everything. Surtout que toutes les cartes sont... Il y a un recto où il vous explique ce que c'est, en fait, ce que vous êtes en train de lire. C'est écrit avec un humour anglais qui est génial. Alors attention, oui, le jeu est entièrement en anglais, mais c'est très très facile à comprendre, ne serait-ce que pour les règles du jeu. Voilà, c'était The Cards, The Universe and Everything. Grouillez-vous d'y jouer parce que franchement, c'est un jeu qui vous aime et nous, on a envie de l'aimer.
Tu cherches des amis pour y jouer?
Non, j'ai pas besoin, il y a tout le temps des joueurs sur Internet.
Allez, c'est la fin de Gros Stick. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Tout de suite après nous, c'est Passport. Salut à tous.
Salut. Bye.